Alors, nous continuons nos méditations. On fait un petit break aujourd'hui. Nous avions commencé des méditations dans l'évangile de Marc. On va le poursuivre les semaines suivantes. Là, il y a un verset dans Marc, mais surtout, il y a un psaume. Psaume 96 dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Marc 14, 26. Et le thème, pour faire écho à ce qu'on a déjà dit dans cette première partie, et avec ce jour de la réformation, ça sera « Chanter ». Le titre, c'est « Chanter ». Je dis ça pour ceux qui enregistrent le culte. On aime bien donner un titre à la prédication qu'on peut réécouter. Et c'est le titre « Chanter ». Alors tout d'abord, le psaume 96. Le début surtout. Chantez à l'Éternel, chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi tous les peuples ses merveilles, racontez parmi les nations sa gloire, car l'Éternel est grand, très digne de louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, des idoles. Mais l'Éternel a fait les cieux, lui. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, parmi les peuples, l'Éternel règne, ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et puis, en Marc, chapitre 14, verset 26, un verset tout court qui dit que juste avant sa passion, Jésus a chanté des psaumes avec ses disciples. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au Mont des Oliviers, Marc 14, verset 26. Alors, dans le christianisme, donc Jésus a chanté les psaumes, bien sûr, avec ses disciples tout au long de son ministère, et spécialement au moment, au pire moment, on y reviendra tout à l'heure, au pire moment du combat, où il allait donner donc sa vie pour nous. Et dans le christianisme, la foi se chante, forcément. Le chant est l'un des principaux éléments qui ont fait au cours des siècles passés et qui font encore dans le monde entier la renommée des disciples de Jésus jusqu'à aujourd'hui. La part dévouée au chant en assemblée a varié au cours des époques, c'est vrai, et peut varier d'un endroit à l'autre. Mais aujourd'hui, la plupart des églises consacrent environ un tiers du temps de leur rassemblement au chant, voire beaucoup plus, mais au moins un tiers. Et elles investissent, toutes les églises investissent également une quantité considérable de temps, d'argent, d'efforts, d'énergie aussi, dans la facette musicale de la vie de l'église. Alors pourquoi chantons-nous ? Voilà. Il y a des choses qu'on fait depuis toujours et on ne sait pas pourquoi on le fait. Pourquoi chantons-nous ? À quoi servent nos chants ? Quelle mission remplissent ces chants ? Et surtout, voyons tout ça d'après l'Écriture, d'après la Bible. Alors, d'après l'Écriture, Dieu nous a créés pour chanter. Mais nous a également appelés à chanter pour plusieurs raisons. Et ces raisons principales, on va les voir, c'est louer, c'est prier, c'est nous édifier ensemble, c'est combattre. Alors, et c'est témoigner. Regardons donc tour à tour chacun de ces aspects. Alors le premier sur lequel j'insisterai davantage, c'est que chanter dans la Bible est un acte de louange. Il est impossible de nier que le chant est une forme vitale de louange. Beaucoup de passages des Écritures, en particulier des psaumes, le confirment. Et donc, si on relit les premiers versets du psaume 96, c'est clair. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel habitant de la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. L'Éternel est grand, digne de recevoir notre louange. Donc, tout d'abord, on peut dire que bien que la louange ne soit pas réductible au chant, le but de ce psaume ne peut être plus clair. Nous chantons au Seigneur dans deux sens. Nous chantons au Seigneur pour bénir son nom, pour lui dire du bien, pour chanter ses louanges directement. Tu es bon, Seigneur, par exemple. Et puis nous chantons au sujet du Seigneur, indirectement, en déclarant sa gloire. Le Seigneur est bon. Le Seigneur a fait telle ou telle chose. Donc, que ce soit directement ou indirectement, nous faisons les deux, et bien souvent, nous faisons les deux à la fois, dans le même cantique. Car même lorsque nos chants s'adressent aux autres, en parlant du Seigneur, de ce qu'il est, eh bien, le Seigneur est présent pour recevoir sa louange. Donc, cette louange, on pourrait dire aussi, devrait être rendue à Dieu en toutes circonstances, et non seulement par notre vie, mais aussi par nos lèvres. Et donc, le psalmiste ne dit pas « penser à des bonnes choses sur Dieu ». Non, chanter, chanter. Ça doit aussi passer par nos lèvres. Ce n'est pas seulement, bien sûr, en paroles, mais aussi par des chants, des paroles chantées, chanter. Alors, comment pourrions-nous oublier ce que Dieu a fait pour nous chaque jour? Il nous donne la santé. Comment pourrions-nous l'oublier? Comment pourrions-nous oublier la vie qu'il prolonge contre toute attente? La vie est toujours un cadeau. Comment pourrions-nous oublier les amis qu'il met sur notre chemin? Une famille, une communauté, tous ceux qui nous entourent. Comment pourrions-nous oublier la présence du Christ, la certitude de son amour, et la certitude, la force que ça nous donne dans notre vie. Alors, bien sûr, on pourrait se poser la question, pourtant, qu'avez-vous chanté pendant cette semaine? Chacun pourrait réfléchir, qu'est-ce que j'ai chanté pour louer le Seigneur pendant cette semaine? Et parfois, on garde tout ça en nous. Tous les sujets de louange ne vont pas très très loin parce qu'on les garde en nous, enfouis. Et enfouis profondément, en pensant que ça va de soi. C'est pas la peine que je le dise. Dieu sait que je l'aime. Voilà. Ça, c'est vraiment très dangereux, cette façon de penser. Alors que les oiseaux gazouillent, alors que la nature éclate de vie, nous, on reste silencieux. Comment ne pas traduire notre louange dans nos chants, nos cultes et notre musique? Alors, il est très souvent, et donc on comprend pourquoi, il est très souvent commandé dans la Bible de chanter les louanges de Dieu, ce qui en souligne l'importance. Alors, je vais citer tous trois versets. Donc, le psaume 96, 1, on l'a lu, « Chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau »,« Chanter en l'honneur de l'Éternel habitant de toute la terre », mais par exemple aussi, un prophète, par exemple Sophonie 3,14, nous dit « Pousse des cris de triomphe, fille de Sion, lance des clameurs Israël, réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem, car l'Éternel a écarté de toi le jugement, l'Éternel a détourné tes ennemis. » Un autre, au hasard presque, en Zacharie 2,14, pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, car me voici, dit le Seigneur, je viens, je demeurerai au milieu de toi. Et enfin, dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament, à part Marc 14, qu'il faut chanter? Bon, on va en citer deux, trois, mais celui auquel on ne pense pas, c'est Jacques, où il donne un ordre de chanter. Jacques 5, 13, Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Donc, de telles exhortations sont nécessaires parce qu'une louange sincère ne naît pas toujours facilement de nos cœurs. En fait, des forces diverses s'opposent à nous pour nous clouer le bec. Des forces célestes, des forces terrestres, des forces externes, des forces internes, des pesanteurs. Des forces qui cherchent à nous empêcher de rendre à Dieu la louange qui lui revient de droit, pourtant. Et donc, à moins d'être attentif à ce danger, il est fort possible de priver Dieu de sa louange. Peut-être parce que nous avons peur d'avoir l'air d'être fous, d'être considérés comme fous, ou que nous craignons ce que les gens pourraient penser de nous si nous élevons notre voix. Si nous sommes gouvernés par de telles peurs, par de telles craintes, nous aurons tendance à museler notre gratitude, à freiner notre enthousiasme parfois, et peut-être à chanter sans même prendre conscience aussi des paroles que nous prononçons. Alors l'antidote, ce n'est pas d'ignorer ceux qui nous entourent, bien sûr, ni d'être indifférent à ce qu'ils vivent. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'on se préoccupe des autres, qu'on s'efforce de rendre hommage à Dieu que d'une manière qui leur soit profitable, édifiante. Et l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 14, que tout se fasse pour l'édification dans l'Église. Et il dit aussi en 1 Corinthiens 14, 19, « Dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. » Mais il est impératif que nous rappelions régulièrement, tant personnellement que publiquement, que Dieu mérite vraiment notre louange. Qu'il l'exige, qu'il la désire. Et de tels rappels sont nécessaires afin que Dieu, qui ne nous a privés de rien, qui n'a même pas épargné son Fils unique pour notre salut, ne soit pas privé de la louange qui lui est due et qu'il ne reçoive pas que les restes de notre attention ou de nos affections. C'est notre devoir le plus élevé, mais c'est aussi notre joie la plus grande que de lui donner la louange de notre cœur, parce qu'il en est digne, qu'il la demande et qu'il n'attend que ça, qu'il la désire. Alors le chant est une forme de prière aussi. Le livre des psaumes est un exemple de choix, puisqu'une grande partie des psaumes sont des prières. Et s'il y a une chose que nous savons sur les psaumes, c'est qu'ils étaient utilisés dans la vie du peuple d'Israël pour être chantés. Beaucoup de ces prières étaient chantées. Et en outre, ils étaient chantés ensuite par les églises du Nouveau Testament, puisque, par exemple, Colossiens 3,16 nous dit que la parole du Christ habite parmi vous avec sa richesse. Comment ? Ben, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes d'abord, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Colossiens 3,16, il y a la même chose en Éphésiens. Alors ça signifie donc que les exhortations à chanter des psaumes incluent aussi des exhortations à chanter des prières. Chanter nos prières présente une grande valeur. Et de fait, chanter les psaumes est une activité extrêmement puissante dans la vie spirituelle. Nous faisons plus que prier lorsque nous chantons. Parce que quand nous chantons les psaumes, nous faisons plus que prier. Parce que nous prions des mots inspirés divinement par Dieu. Nous prions avec les mots que le Seigneur, par son Esprit Saint, a inspirés. Puisque nous prions les psaumes, les paroles de la Bible. Et puis chanter ces paroles à haute voix implique davantage, nous implique davantage. Parce qu'on chante avec notre voix. Donc c'est tout notre être qui est impliqué. Pas seulement notre vie intérieure, mais également notre corps. Toute notre vie est impliquée. Donc ça nous implique davantage, on le sait bien, de dire les choses à haute voix, de professer notre foi à haute voix et de chanter à haute voix. Et puis ça nous aide aussi à exprimer des vérités. Qui était un peu flou, le fait de mettre des mots et de les exprimer à haute voix, des vérités, ces vérités s'ancrent davantage en nous. Et puis surtout, je crois, prier, chanter ces psaumes à haute voix nous aide à exprimer nos émotions. On a des émotions très fortes. mais on n'a pas toujours les mots pour les exprimer. Et dans les psaumes, il y a toute la gamme des émotions possibles. Il y a toujours un psaume pour exprimer l'émotion que vous avez au moment, hein, au moment X. Hein. Et donc, ces émotions sont profondément enfouies. Et si on les exprime par ces psaumes, et si on les chante à haute voix, eh bien, ça nous libère. Hein. Ça nous libère et ça nous fait énormément de bien. Alors, bien sûr, nous n'avons pas à nous restreindre aux seules activités du chant et de la prière des psaumes. Hein. Paul ajoute des hymnes et des cantiques spirituels. Hein. Donc, nous pouvons chanter, nous pouvons prier beaucoup de cantiques d'hier ou d'aujourd'hui qui sont inspirés de la Bible, qui sont inspirés par des croyants qui ont fait des expériences basées sur la Bible. Et dans la mesure où nous chantons et prions en accord avec la volonté de Dieu révélée dans la Bible, nous sommes sur un terrain solide. Alors, lorsque nous chantons, nous prions également, et ce que nous le réalisions ou non. Et par le chant, nous demandons à Dieu des choses, à la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif. Et Dieu nous exauce. Un jour, on comprendra dans le ciel toutes les prières chantées que Dieu a exaucées. Et pourtant, on les a chantées un petit peu comme ça, par habitude, en suivant la musique et sans trop réfléchir aux paroles. Mais Dieu a écouté les paroles. Alors, ça veut dire quand même qu'il est bon que nous soyons au courant de ce que nous chantons. Et que nous soyons connectés aux paroles que l'on chante. Et donc, c'est important que nos esprits soient pleinement engagés. Et je prierai avec mon intelligence, dit Paul. Alors, chanter est aussi une forme d'édification mutuelle. Et donc, c'est la grande chose qui a été découverte par la réforme protestante. Luther, comme Calvin, ont accordé beaucoup d'importance au chant communautaire, la dimension communautaire du chant. Et dans les psaumes, on ne dit pas « chante », on dit « chanter ». Et le chant est appelé à être chanté en communauté. Et c'est ça qui nous fait du bien aussi. Et les psaumes, le psaume donc 96, nous invite au chant communautaire. Chanter, chanter ensemble, sous-entendu. Donc nous voilà au cœur de l'héritage de la Réformation. Selon Luther et Calvin, l'Assemblée et d'autres, grands docteurs de l'Église, ensuite Wesley et d'autres, l'Assemblée des fidèles réunis pour le culte doit participer activement au culte par le chant, comme c'était le cas dans le Nouveau Testament. Tous sont sacrificateurs, nous sommes tous sacrificateurs, nous approchons tous de Dieu avec confiance, et nous apportons tous notre tribut de louange à Dieu. Tous sont appelés à confesser leur foi également, à célébrer Dieu. Et donc, en plus, on pourrait dire d'être un acte de louange et une forme de prière, le chant est une forme d'édification mutuelle. En effet, les Écritures révèlent que la parole vivifiante du Christ est non seulement transmise au sein du peuple de Dieu par la lecture de la Bible, par la prédication biblique, mais aussi par le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, comme on l'a dit. Chanter la parole de Dieu revêt une importance vitale. C'est une forme de ministère de la parole, à la fois unique et puissante. Paul a fortement insisté sur le fait que le chant en assemblée détient une fonction d'enseignement. Car quand nous chantons ensemble, comme nous l'avons fait au cours du culte jusqu'à présent, en même temps que nous louons et prions, nous nous instruisons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres par les paroles que nous chantons. Et une telle déclaration fait sûrement du chant une part intégrante de la vie spirituelle et de la santé du peuple de Dieu, de la santé de l'Église. Le chant n'est pas un exercice de mise en condition, comme on a pu le faire parfois. Le chant n'est pas seulement un exercice de préparation avant la prédication. On va se mettre en forme pour bien écouter la Bible. On va chanter 2-3 chants pour bien nous réveiller. C'est pas ça le chant. C'est beaucoup plus important que ça dans la Bible, le chant. Le chant est une part intégrante de la prédication. Et le chant est le moment où nous prêchons tous, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Et c'est un fait que les chants que nous chantons sont souvent retenus longtemps après, alors que les sermons ont été oubliés. Et ça doit humilier tous les prédicateurs. Ce constat est source d'humilité pour tous ceux d'entre nous qui sont prédicateurs. Et puis chanter, c'est combattre. Notre psaume nous dit encore autre chose. Chanter, c'est entrer dans un combat. C'est renforcer même ce combat. Le combat, alors le combat, on le sait bien, par le chant, la première chose auquel on pense, c'est le chant qu'on chante avec les enfants. Le chant, le soir, vient, les enfants ont peur dans leur chambre, ils demandent qu'on n'éteigne pas la lumière. Et le soir venu, dans la chambre des tout-petits, les enfants ont peur. Et quand les parents chantent avec les enfants, eh bien, ils combattent la nuit, combattent la peur qu'elle engendre. Ils ne doivent pas faire que chanter, ils doivent lire la Bible avec leurs enfants tout jeunes et prier avec eux. C'est très important. Mais le chant, c'est, on pense à ça tout de suite. Mais dans ce psaume 96, le psalmiste associe le chant au combat contre les idoles aussi. Chantez au Seigneur, proclamez son salut, on l'a dit. Car le Seigneur est redoutable plus que tous les dieux. Toutes les divinités des peuples sont des faux dieux, des idoles. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Donc par idole, il ne faut pas entendre seulement les petites statues des peuples dits primitifs que nous pouvons voir au musée, au musée des arts premiers, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Non, les idoles sont des réalités humaines que les hommes vénèrent. C'est ce qu'ils mettent en premier dans leur vie. C'est ce à quoi ils s'attachent. C'est ce à quoi ils adhèrent. C'est ce qui remplace le Dieu vivant. C'est ce qui masque le Dieu vivant. C'est ce pourquoi ils sont prêts même à mourir. Il s'agit peut-être de choses estimables comme le travail, la famille, la patrie, la santé, le pouvoir, le sport, le sexe, la carrière, l'argent, voire une église. Et en soi, tout cela peut être un sujet de reconnaissance à Dieu. Tout ça, ce sont des dons de Dieu pour réjouir le cœur de l'homme. Mais comment nier que nous adorons une idole quand nous ne reconnaissons plus autre chose que la carrière, le pouvoir ou une de ces choses que je citais? Quand les moyens deviennent des fins, quand les choses terrestres deviennent célestes, alors c'est comme le savetier de la fable de La Fontaine. Vous vous souvenez peut-être de cette fable qu'on apprend à l'époque, on l'apprenait en CM1, CM2, un savetier qui ne chante plus. Parce qu'il s'est enrichi. Au départ, chaque jour, dès que le soleil se levait, il faisait ses chaussures, il plantait ses clous, et jusqu'à la fin de la journée, dans la joie, il avait ce qu'il fallait pour vivre, il ne lui en fallait pas plus, et il était heureux de travailler. Et puis il s'est enrichi, il ne pensait plus qu'à son argent, qu'on allait lui voler pendant qu'il travaillait, et il ne chantait plus tellement le souci avait rempli son âme et l'argent était devenu une idole dure. Et donc, voilà ce qui peut arriver à bien des hommes. Et nous sommes invités par notre psaume à chanter pour manifester, peut-être pour reconquérir, retrouver la vraie liberté des enfants de Dieu. Celle d'un Luther qui chantait « C'est un rempart que notre Dieu », on va le chanter tout à l'heure. Il a retrouvé la liberté, la libération de la peur quand il a composé ce cantique en 1521 pour vaincre le diable qui lui disait « Ton combat est perdu, tu vas mourir ». Convaincre toutes les idoles pour abattre, vaincre toutes les idoles qui s'élevaient dans sa vie comme dans la vie de son peuple et pour proclamer que le Seigneur était vivant et qu'il allait sauver son peuple, un peuple nombreux, pour bien dire que le Seigneur en lequel nous pouvons, et nous sommes invités nous aussi à chanter pour combattre, pour bien dire qui est le Seigneur en lequel nous pouvons nous confier et pour remettre à leur place terrestre et humaine les réalités qui passent et qui ne sont ni des raisons de vivre, ni des raisons de mourir non plus. Luther a dit aussi, le diable a un esprit de tristesse et il ne peut supporter aucune joie et il est éloigné à 1000 lieues de la musique. Et c'est combien c'est vrai aujourd'hui. Dieu sait combien la morosité règne autour de nous, dans notre société. Il règne un esprit de dénigrement, de résignation qui domine dans notre civilisation fatiguée. Et nous devons combattre cela. Et nous le combattons par le chant. L'Église a vocation d'être un lieu et une communauté où on chante, où on fait de la bonne musique, En effet, elle est un lieu et une communauté où, avec le Christ ressuscité, les humains combattent la tristesse ambiante, la résignation, le défaitisme. L'Église est le lieu où se répand la joie de Dieu qui a vaincu le diable. Alors, si on revient à Marc, on voit que le Seigneur Jésus et les apôtres ont utilisé le chant pour le louer, pour le prier et aussi pour combattre. Puisqu'on voit que juste avant sa passion, en Marc 14, 26, il est dit qu'après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Nous ne savons pas exactement quels psaumes ils ont chanté, les psaumes 113 à 118 peut-être. Mais les apôtres n'ont pas tout compris, ils étaient dans la tristesse, mais ils ont chanté quand même. Et quelque part, ça a dû leur faire plus de bien qu'ils ne l'imaginaient à ce moment-là. Mais le Seigneur, lui, a chanté de tout son cœur. Ces psaumes chantés avaient certainement une signification profonde dans le cœur de Jésus à ce moment-là. Le choix des psaumes n'était pas un choix hasardeux. Ces psaumes chantés avaient un lien, si on relie les psaumes 113 à 118, avec sa passion. Ils avaient un lien avec tout ce qu'il allait vivre. Et ça le préparait au moment ultime de sa carrière, de son ministère pour nous, de son œuvre pour nous. Et ce n'est pas tout, c'est très certainement ces chants qui ont été conçus pour éveiller, pour ranimer l'intelligence, les émotions, la volonté. Ces chants ont enflammé Jésus d'un zèle redoublé pour qu'il aille accomplir promptement et avec une obéissance parfaite la mission pour laquelle il était venu et dont il venait de chanter dans ses psaumes la signification et dont son Père Céleste l'avait investi. Donc Jésus, les psaumes ont aidé à prier et à combattre, ont aidé Jésus et ensuite les apôtres dans la suite de leur ministère à aider à prier et à combattre. Alors c'est bon de rappeler pour terminer que chanter aussi a une dimension de témoignage. La louange doit prendre place parmi les nations, tous les peuples, chanter parmi les nations. Les nations, c'était tous les peuples païens. Le verset suivant nous dit que lorsque nous adorons, nous annonçons son salut. Littéralement, nous annonçons la bonne nouvelle de son salut. Il n'y a pas de meilleur moyen de montrer aux sceptiques la grandeur de Dieu et la beauté de sa vérité qu'au travers de l'adoration. Notre adoration doit être convaincante pour les non-croyants. Une adoration dynamique n'est pas seulement un moyen une adoration qui vient du cœur. Elle n'est pas seulement un moyen de gagner le monde. Elle nous motive aussi à gagner le monde. Seul un cœur débordant de joie voudra communiquer. Seul un cœur débordant de joie le dimanche voudra communiquer le lundi la source de cette joie à ceux qu'il rencontrera. L'adoration nous propulse, ne nous garde pas comme ça renfermés sur nous-mêmes. La véritable adoration nous ouvre. Elle nous propulse dans le monde afin de servir mieux les autres et d'aimer mieux les autres. Donc pour conclure, ça c'est la vraie conclusion. Dimanche prochain, je ne vais pas le faire, mais rassurez-vous. Mais dimanche prochain, je pourrais vous poser la question. Qu'avez-vous chanté pendant cette semaine? C'est une question qu'on peut se poser, en tout cas. La question demeure. Comment disons-nous au long de nos jours merci pour tout ce que Dieu nous donne? Comment exprimons-nous notre prière? Comment renforçons-nous notre foi les uns les autres? Comment menons-nous aujourd'hui le combat contre les idoles, les faux dieux? Alors nous dit le psaume, notre psaume, chantez. Comme Jésus et les apôtres, chantez. Comme l'ont fait les chrétiens de tous les temps, chantez.